Bonjour à tous. C'est le 9e roman d'un auteur que vous connaissez bien que je vous propose cette semaine dans Évasion romanesque. La chasse est sortie en 2021. Bernard Minier continue dans le genre qui lui va si bien, le policier. Bernard Minier a commencé à écrire en 2010, à 50 ans, après une carrière dans l'administration en tant que contrôleur principal des douanes. Originaire des Pyrénées, c'est l'endroit qu'il choisit pour mettre en scène ses romans. Entre la Garonne et l'Ariège, son héros érudit, Martin Servaz, est une nouvelle fois confronté à une enquête sensible. 2h30 du matin, il roule sur la petite route de plus en plus étroite à mesure qu'elle grimpe et descend les collines de l'Ariège, loin au sud de l'agglomération toulousaine. S'enfonçant dans la forêt, en ressortant pour longer des prairies et des fermes isolées, avant de s'y enfoncer de nouveau. Il faisait nuit noire, le jour ne se lèverait pas avant plusieurs heures. Il avait terminé son service à l'hôpital et il rentrait chez lui. Quand il arriverait, sa femme et ses gosses dormiraient et quand il se lèverait, c'est lui qui dormirait du sommeil du juste. Du juste, ça restait à voir. Les mains sur le volant, il renifla le col de sa chemise. Il lui avait offert le même parfum qu'à sa femme, mais elle en mettait trop. La nuit et les bois défilaient, noirs comme le péché, tandis qu'il enfilait les virages. Il était seul sur la route. Le spectacle de la forêt et des tournants s'enchaînant dans la lueur des phares avait quelque chose de dangereusement hypnotique. Il avait hâte d'être rentré. Ses yeux commençaient à scier. « Dans moins de 15 minutes, tu seras dans ton lit. » Il les ouvrit grands, secoua la tête, remua la mâchoire et monta le volume. Seulement 20 bornes séparaient la maison de Christine de la sienne, mais il avait mis de la musique pour lutter contre l'endormissement. Ça avait été une longue nuit à l'hôpital, mais les 2 dernières heures dans les bras de Christine lui avaient fourni une récréation bien heureuse et exténuante. Il l'avait connue sur Tinder, permis à plusieurs reprises de faire des rencontres, mais qui l'emplissait en contrepartie d'un sentiment de culpabilité et de salissure. À quoi ça rimait? Quel était le sens de tous ces sweepers et de ces matchs? Les relations amoureuses, les siennes en tout cas, ressemblaient de plus en plus à une foire aux bestiaux. Merde! Quelque chose venait de surgir des bois bondissant sur la route droit devant lui. Un cerf, un putain de cerf! Il jura, vit trop tard les grands bois majestueux de l'animal qui se jetait devant les phares pour traverser la chaussée. Il écrasa la pédale de frein, les fesses décollées du siège, mais ne put éviter le choc. À l'ultime instant, avant d'être heurté par la voiture, le cerf tourna son regard vers lui et il entrevit 2 yeux, pleins de frayeur, 2 yeux presque humains, dans l'incendie des phares. La collision fut terrible. Le corps du grand animal fut dans un premier temps précipité sur le capot avant de retomber devant le pare-choc sur la route. Déjà, il ouvrait la portière. Il descendait, il marchait vers l'avant du véhicule, portant son regard au-delà du capot enfoncé. Il vit la forme allongée sur le bitume. Il ouvrit la bouche. En manque d'oxygène, ses pupilles se dilatèrent. Il était sûr qu'il n'oublierait jamais cette image, car ce n'était pas un animal qui gisait sur la route. C'était un homme. Un jeune homme, un gosse de 17 ans, nu et affublé d'un masque de cerf, blessé à l'épaule par une flèche d'arbalète encore fichée dans le corps. On pourrait penser qu'il a été chassé. Mais par qui? Pourquoi? Quelle est encore cette folle idée sortie d'un cerveau humain détraqué? Servaz est fatigué de constater à quel point la folie qui s'empare des hommes ne cesse de progresser. Mais cette enquête, il en est en charge. Alors, il va la mener à bien, comme à chaque fois, même s'il flirte un peu trop souvent avec les limites qui lui sont imposées. Mais c'est son style. Avec son équipe habituelle, plus un petit jeune tout juste sorti des bancs de l'école de police qu'on lui met dans les pattes, il va découvrir que derrière cette chasse, il y a une volonté de faire justice là où l'institution a péché, que sans doute des gens haut placés, voire même certains de ses collègues, sont mêlés dans cette mise en scène. Et ce gosse masqué et chassé dans les forêts ariégeoises semble ne pas être un cas isolé. Pelote après pelote, Servaz cherche le lien, la raison, le mobile et les coupables. Mais impossible d'avoir des preuves directes, rien que des soupçons, des intuitions et des coïncidences. « Bon Dieu !» s'exclama Chabriac à l'hôtel de police. « Si c'est vrai, c'est énorme, ça va être un cataclysme !» Il regardait Servaz sombrement, allant et venant dans le grand bureau. « On ne peut pas continuer comme ça !» décida le divisionnaire. Il y a trop de policiers impliqués, on doit passer le dossier à l'IGPN. Informer la hiérarchie. Servaz se raidit. Laissez-nous au moins quelques jours, patron. Pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais on est vraiment tout prêt. On a les noms, on sait qui ils sont, qui dirigent, ce n'est qu'une question de temps, on les tient. Chabriac émit un puissant soupir de contrariété. Vous êtes bien conscient qu'on nage en eau trouble, là. Il me faut du concret, commandant. Vite, sinon on va se faire laminer. Il pointa un doigt boudiné sur Servaz. D'accord, allez-y. Mais vous ne sortez pas des clous, vous restez irréprochable, question procédure. Je veux que tout soit propre, carré, net, précis. C'est compris ? Servaz acquiesça d'un signe de tête, soulagé. Chabriac se rassit dans son fauteuil. Je vais informer le juge moi-même, dit-il en décrochant son téléphone. Ça aura plus de poids. Bon travail, ajouta-t-il. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Surtout, tenez-moi au courant. Mais ce que Servaz ne sait pas, c'est qu'il n'a pas identifié tout le monde et il reste une taupe qui informe le cerveau de cette organisation de l'avancée de l'enquête. Et pour tenter de stopper ce commandant empêcheur de tourner en rond, le kidnapping de sa compagne est organisé. Le message que Servaz reçoit est clair. Il doit enregistrer une vidéo où il se dénonce l'auteur de cette chasse à l'homme et se suicider ensuite d'une balle dans son arme de service dans la tempe. Seule condition pour que Léa soit libérée. Ce que décidera de faire Servaz et l'issue de cette enquête sont à découvrir à la toute fin du livre.